Chapitre 66. La partie de Lansquenet. En effet, il était 9 heures du soir. Les postes avaient été relevés à 8 et depuis 1 heure, la garde du capitaine Groslot avait commencé. D'Artagnan et Porthos, armés de leurs épées, et Athos et Aramis ayant chacun un poignard caché dans la poitrine, s'avancèrent vers la maison qui, ce soir-là, servait de prison à Charles Stuart. Ces deux derniers suivaient leurs vainqueurs, humbles et désarmés en apparence, comme des captifs. « Ma foi, dit Groslot en les apercevant, je ne comptais presque plus sur vous. » D'Artagnan s'approcha de celui-ci et lui dit tout bas. « En effet, nous avons hésité un instant, monsieur Duvallon et moi. »« Et pourquoi ?» demanda Groslot. D'Artagnan lui montra de l'œil Athos et Aramis. « Ah ah !» dit Groslot, « à cause des opinions ? Peu importe. Au contraire, ajouta-t-il en riant, s'ils veulent voir le Stuart, ils le verront. »« Passons-nous la nuit dans la chambre du roi ? » demanda D'Artagnan. « Non, mais dans la chambre voisine. Et comme la porte restera ouverte, c'est exactement comme si nous demeurions dans sa chambre même. Vous êtes-vous muni d'argent ? Je vous déclare que je compte jouer ce soir un jeu d'enfer. » « Entendez-vous ? » dit D'Artagnan en faisant sonner l'or dans ses poches. « Very good !» dit Groslot, et il ouvrit la porte de la chambre. « C'est pour vous montrer le chemin, messieurs, » dit-il, et il entra le premier. D'Artagnan se retourna vers ses amis. Porthos était insoucieux, comme s'il s'agissait d'une partie ordinaire. Athos était pâle, mais résolu. Aramis essuyait avec un mouchoir son front mouillé d'une légère sueur. Les 8 gardes étaient à leur poste. 4 étaient dans la chambre du roi, 2 à la porte de communication, 2 à la porte par laquelle entraient les 4 amis. À la vue des épées nues, Athos sourit. Ce n'était donc plus une boucherie, mais un combat. À partir de ce moment, toute sa bonne humeur parut revenue. Charles, que l'on apercevait à travers une porte ouverte, était sur son lit tout habillé. Seulement, une couverture de laine était rejetée sur lui. À son chevet, Perret était assis, lisant à voix basse, et cependant assez haute pour que Charles, qui l'écoutait les yeux fermés, l'entendît, un chapitre dans une Bible catholique. Une chandelle de suif grossier, placée sur une table noire, éclairait le visage résigné du roi et le visage infiniment moins calme de son fidèle serviteur. De temps en temps, Perry s'interrompait, croyant que le roi dormait visiblement. Mais alors, le roi rouvrait les yeux et lui disait en souriant. « Continue, mon bon Perry, j'écoute. » Groslot s'avança jusqu'au seuil de la chambre du roi, remit avec affectation sur sa tête le chapeau qu'il avait tenu à la main pour recevoir ses hôtes, regarda un instant avec mépris ce tableau simple et touchant d'un vieux serviteur lisant la Bible à son roi prisonnier, s'assura que chaque homme était bien au poste qu'il lui avait assigné, et, se retournant vers D'Artagnan, il regarda triomphalement le Français comme pour mendier un éloge sur sa tactique. « À merveille !» dit le Gascon. « Cap d'Eliou, vous ferez un général un peu distingué. »« Et croyez-vous, demanda Groslot, que ce sera tant que je serai de garde près de lui que le Stuart se sauvera ?»« Non, certes, répondit D'Artagnan, à moins qu'il ne lui pleuve des amis du ciel. » Le visage de Groslot s'épanouit. Comme Charles Stuart avait gardé pendant cette scène ses yeux constamment fermés, on ne peut dire s'il s'était aperçu ou non de l'insolence du capitaine puritain. Mais, malgré lui, dès qu'il entendit le timbre accentué de la voix de D'Artagnan, ses paupières se rouvrirent. Perret, de son côté, tressaillit et interrompit la lecture. « À quoi songes-tu donc de t'interrompre ?» dit le roi. « Continue, mon bon Perret, à moins que tu ne sois fatigué toutefois. » « Non, sire !» dit le valet de chambre, et il reprit sa lecture. Une table était préparée dans la première chambre et sur cette table couverte d'un tapis étaient deux chandelles allumées, des cartes, deux cornets et des dés. « Messieurs, dit Groslot, asseyez-vous, je vous prie, moi en face du Stuart, que j'aime tant à voir, surtout où il est, vous, monsieur d'Artagnan, en face de moi. » Athos rougit de colère. D'Artagnan le regarda en fronçant le sourcil. « C'est cela, dit d'Artagnan. Vous, monsieur le comte de la Fère, à la droite de monsieur Groslot. Vous, monsieur le chevalier d'Herblay, à sa gauche. Vous, du Vallon, près de moi. Vous pariez pour moi, et ces messieurs pour monsieur Groslot. » D'Artagnan les avait ainsi. Porthos à sa gauche, et il lui parlait du genou. Athos et Aramis en face de lui, et il les tenait sous son regard. Au nom du comte de la Fère et du chevalier d'Herblay, Charles rouvrit les yeux et, malgré lui, relevant sa noble tête, embrassa d'un regard tous les acteurs de cette scène. En ce moment, Perret tourna quelques feuillets de sa Bible et lut tout haut ce verset de Jérémie. « Dieu dit, écoutez les paroles des prophètes, mes serviteurs, que je vous ai envoyés avec grand soin et que j'ai conduits vers vous. » Les quatre amis échangèrent un regard. Les paroles que venait de dire Perret leur indiquaient que leur présence était attribuée par le roi à son véritable motif. Les yeux de D'Artagnan pétillèrent de joie. « Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais enfant, dit D'Artagnan en mettant une vingtaine de pistoles sur la table. « Oui, dit Groslot. « Eh bien, reprit D'Artagnan, à mon tour, je vous dis, « tenez bien votre trésor, mon cher monsieur Groslot, car je vous réponds que nous ne sortirons d'ici qu'en vous l'enlevant. »« Ce ne sera pas sans que je le défende, » dit Groslot. « Tant mieux, » dit D'Artagnan. « Bataille, mon cher capitaine, bataille. Vous savez ou vous ne savez pas que c'est ce que nous demandons. « Ah oui, je sais bien, » dit Groslot en éclatant de son gros rire. « Vous ne cherchez que plaisébos, vous autres Français. » En effet, Charles avait tout entendu, tout compris. Une légère rougeur monta à son visage. Les soldats qui le gardaient le virent donc peu à peu étendre ses membres fatigués et, sous prétexte d'une excessive chaleur, provoquée par un poêle chauffé à blanc, rejeter peu à peu la couverture écossaise sous laquelle, nous l'avons dit, il était couché tout vêtu. Athos et Aramis tressaillirent de joie en voyant que le roi était couché habillé. La partie commença. Ce soir-là, la veine avait tourné et était pour Groslot. Il tenait tout et gagnait toujours. Une centaine de pistoles passa ainsi d'un côté de la table à l'autre. Groslot était d'une gaieté folle. Porthos, qui avait reperdu les 50 pistoles qu'il avait gagnées la veille, et en outre une trentaine de pistoles à lui, était fort maussade et interrogeait D'Artagnan du genou, comme pour lui demander s'il n'était pas bientôt temps de passer à un autre jeu. De leur côté, Athos et Aramis le regardaient d'un œil scrutateur, mais D'Artagnan restait impassible. 10 heures sonnèrent. On entendit la ronde qui passait. « Combien faites-vous de rondes comme celle-là » dit D'Artagnan en tirant de nouvelles pistoles de sa poche. « 5, dit Groslot, « une toutes les 2 heures. »« Bien, dit D'Artagnan, « c'est prudent. » Et, à son tour, il lança un coup d'œil à Athos et à Aramis. On entendit les pas de la patrouille qui s'éloignait. D'Artagnan répondit pour la première fois au coup de genou de Porthos par un coup de genou pareil. Cependant, attiré par cet attrait du jeu et par la vue de l'or, si puissante chez tous les hommes, les soldats, dont la consigne était de rester dans la chambre du roi, s'étaient peu à peu rapprochés de la porte. Et là, en se haussant sur la pointe du pied, ils regardaient par-dessus l'épaule de D'Artagnan et de Porthos. Ceux de la porte s'étaient rapprochés aussi, secondant de cette façon les désirs des quatre amis, qui aimaient mieux les avoir sous la main que d'être obligés de courir à eux aux quatre coins de la chambre. Les deux sentinelles de la porte avaient toujours l'épée nue, seulement Elle s'appuyait sur la pointe et regardait les joueurs. Athos semblait se calmer à mesure que le moment approchait. Ses deux mains blanches et aristocratiques jouaient avec des louis qu'il tordait et redressait avec autant de facilité que si l'or eût été de l'étain. Moins maître de lui, Aramis fouillait continuellement sa poitrine. Impatient de perdre toujours, Porthos jouait du genou à tout rompre. D'Artagnan se retourna, regardant machinalement en arrière, et vit entre deux soldats Perry debout et Charles appuyé sur son coude, joignant les mains et paraissant adresser à Dieu une fervente prière. D'Artagnan comprit que le moment était venu, que chacun était à son poste et qu'on n'attendait plus que le mot « enfin » qui, on se le rappelle, devait servir de signal. Il lança un coup d'œil préparatoire à Athos et à Aramis et tous deux reculèrent légèrement leur chaise pour avoir la liberté du mouvement. Il donna un second coup de genou à Porthos et celui-ci se leva comme pour se dégourdir les jambes. Seulement, en se levant, il s'assura que son épée pouvait sortir facilement du fourreau. « Sacrebleu ! Dit d'Artagnan, encore 20 pistoles de perdu. En vérité, capitaine de Groslot, vous avez trop de bonheur, cela ne peut durer. » Et il tira 20 autres pistoles de sa poche. « Un dernier coup, capitaine. C'est 20 pistoles sur un coup, sur un seul, sur le dernier. »« Va pour 20 pistoles, dit Groslot. » Et il retourna 2 cartes, comme c'est l'habitude, un roi pour d'Artagnan, un as pour lui. « Un roi, dit d'Artagnan, c'est de bon augure. Maître Groslot, ajouta-t-il, prenez garde, roi. » Et malgré sa puissance sur lui-même, il y avait dans la voix de d'Artagnan une vibration étrange qui fit tressaillir son partenaire. Groslot commença à retourner les cartes les unes après les autres. S'il retournait un as d'abord, il avait gagné. S'il retournait un roi, il avait perdu. Il retourna un roi. « Enfin !» dit d'Artagnan. À ces mots, Athos et Aramis se levèrent. Porthos recula d'un pas. Poignards et épées allaient briller, mais soudain la porte s'ouvrit et Harrison parut sur le seuil, accompagné d'un homme enveloppé dans un manteau. Derrière cet homme, on voyait briller les mousquets de 5 ou 6 soldats. Groslot se leva vivement, honteux d'être surpris au milieu du vin, des cartes et des dés. Mais Harrison ne fit point attention à lui et, entrant dans la chambre du roi, suivi de son compagnon, « Charles Stuart, dit-il, l'ordre arrive de vous conduire à Londres sans s'arrêter ni jour ni nuit. Apprêtez-vous donc à partir à l'instant même. » « Et de quelle part cet ordre est-il donné ? Demanda le roi. « De la part du général Olivier Cromwell ?»« Oui, dit Harrison. Et voici M. Mordaunt qui l'apporte à l'instant même et qui a charge de le faire exécuter. »« Mordaunt !» murmurèrent les 4 amis en échangeant un regard. D'Artagnan rafla sur la table tout l'argent que lui et Porthos avaient perdu et l'engouffra dans sa vaste poche. Athos et Aramis se rangèrent derrière lui. À ce mouvement, Mordaunt se retourna, les reconnut et poussa une exclamation de joie sauvage. « Je crois que nous sommes pris, » dit tout bas d'Artagnan à ses amis. « Pas encore, » dit Porthos. « Colonel, colonel, » dit Mordaunt, « faites entourer cette chambre, vous êtes trahis. Ces 4 Français se sont sauvés de Newcastle et veulent sans doute enlever le roi. Qu'on les arrête !»« Oh, jeune homme, » dit d'Artagnan en tirant son épée, « voici un ordre plus facile à dire qu'à exécuter. » Puis, décrivant autour de lui un moulinet terrible, « En retraite, ami » cria-t-il, « en retraite !» En même temps, il s'élança vers la porte, renversa 2 des soldats qui la gardaient avant qu'ils eussent le temps d'armer leurs mousquets, Athos et Aramis le suivirent, Porthos fit l'arrière-garde, et avant que soldats, officiers, colonels eussent eu le temps de se reconnaître, ils étaient tous les 4 dans la rue. « Feu !» cria Mordaunt, « feu sur eux !» 2 ou 3 coups de mousquet partirent effectivement, mais n'eurent d'autre effet que de montrer les 4 fugitifs tournant sain et sauf l'angle de la rue. Les chevaux étaient à l'endroit désigné. Les valets n'eurent qu'à jeter la bride à leur maître, qui se trouvèrent en selle avec la légèreté de cavaliers consommés. « En avant, dit d'Artagnan, de l'éperon, ferme !» Ils coururent ainsi, suivant d'Artagnan et reprenant la route qu'ils avaient déjà faite dans la journée, c'est-à-dire se dirigeant vers l'Écosse. Le bourg n'avait ni porte ni muraille, ils en sortirent donc sans difficulté. À 50 pas de la dernière maison, d'Artagnan s'arrêta. « Halte ! » dit-il. « Comment, halte ? » s'écria Porthos. « Ventre à terre, vous voulez dire ?»« Pas du tout, » répondit d'Artagnan. « Cette fois-ci, on va nous poursuivre. Laissons-les sortir du bourg et courir après nous sur la route d'Écosse. Et quand nous les aurons vus passer au galop, suivons la route opposée. » À quelques pas de là passait un ruisseau. Un pont était jeté sur le ruisseau. D'Artagnan conduisit son cheval sous l'arche de ce pont. Ses amis le suivirent. Ils n'y étaient pas depuis 10 minutes qu'ils entendirent approcher le galop rapide d'une troupe de cavaliers. 5 minutes après, cette troupe passait sur leur tête, bien loin de se douter que ceux qu'ils cherchaient n'étaient séparés d'eux que par l'épaisseur de la voûte du pont.